Vous écoutez On lit pour vous.
Moins d'émissions grand public, plus de contenu jeunesse. Un texte d'Étienne Paré, paru le 22 juin 2026 dans La Presse. Télé-Québec diffusera dans les prochaines années moins d'émissions destinées au grand public. La société d'État entend donner la priorité au contenu jeunesse, ceux visant les 9-17 ans en particulier. C'est l'une des mesures phares de la nouvelle stratégie québécoise de l'audiovisuel qui a été dévoilée lundi matin par la première ministre Christine Fréchette et son ministre de la Culture Mathieu Lacombe. Ce plan quinquennal fait suite aux recommandations du groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec, GTAAQ, qui a remis son rapport en septembre 2025. Pour répondre à la crise sans précédent que traverse le secteur de la télévision, Québec s'engage à injecter 289 millions supplémentaires dans l'industrie audiovisuelle d'ici 2031. Pour l'an prochain, on parle de 30 millions de plus par rapport à ce qui était prévu dans le dernier budget. En conférence de presse, la première ministre Fréchette a déclaré qu'il y avait urgence d'agir pour venir en aide à ce secteur face à la révolution technologique en cours. Dans son allocution, elle a beaucoup insisté sur l'importance de reconquérir les jeunes publics. Les jeunes regardent très peu la télé traditionnelle, mais ils consomment de manière massive des contenus anglophones et étrangers sur les plateformes de diffusion en ligne. On peut penser à Netflix, Disney+, ou encore YouTube. Et ce qu'on voit, c'est que les œuvres québécoises peinent à se faire une place sur ces plateformes. C'est désolé, Christine Fréchette. Le média public de tous les Québécois. Au cœur de cette vaste stratégie gouvernementale, Télé-Québec est appelé à changer de mandat dans les prochaines années. Les adultes ne sont plus le premier public visé. Les adolescents deviennent la cible prioritaire, suivi des tout-petits. Comme ces deux catégories de spectateurs ont largement délaissé la télé traditionnelle, le diffuseur public entend aller les rejoindre là où ils se trouvent, sur les réseaux sociaux, avec des formats courts qui ne sont pas nécessairement conçus pour la télévision traditionnelle. Rappelons que Télé-Québec a déjà lancé en avril dernier La mascotte du chaos, une série jeunesse composée de courts épisodes pensés spécifiquement pour TikTok. Il faut s'attendre à voir davantage de contenu de ce type émaner du diffuseur public dans les 5 prochaines années. Avec l'augmentation importante des budgets prévus pour la jeunesse, la Société d'État reconnaît que l'enveloppe destinée à la production d'émissions grand public est appelée à diminuer inévitablement. Il est encore trop tôt, cela dit, pour dire dans quelle mesure. La programmation de Télé-Québec pour la prochaine saison est déjà en grande partie bouclée. L'effet de ce changement d'orientation devrait donc se faire sentir en ondes plutôt vers l'automne 2027. On demeure le média public de tous les Québécois. On va continuer de diffuser des émissions pour un public plus large qui s'inscrit dans notre mission, a toutefois tenu à faire savoir Nadine Dufour, vice-présidente au contenu à Télé-Québec. Flexibilité. Le projet de loi fédérale, voulant interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, pourrait amener Télé-Québec à revoir son approche pour tenter de rejoindre les enfants et les adolescents. Mais pas question de déroger à cette nouvelle priorité. Évidemment, dit le ministre Lacombe, on n'en est pas encore là. Mais si on en vient à une interdiction, on s'adaptera. L'idée, c'est d'aller là où les jeunes se trouvent. S'ils ne sont plus sur les réseaux sociaux, on ira là où ils seront. Après avoir clairement indiqué qu'il serait candidat à l'élection d'octobre prochain, Mathieu Lacombe a annoncé la semaine dernière qu'il revenait sur sa décision, évoquant des raisons familiales. Après près de 4 ans à la culture, cette stratégie québécoise de l'audiovisuel prend des airs de legs politiques. Elle a globalement été bien accueillie dans le milieu. Les objectifs poursuivis par la stratégie permettront assurément de renforcer le lien entre les publics, particulièrement les jeunes, et le contenu québécois et d'adapter l'offre culturelle aux nouvelles réalités du marché, a notamment réagi l'Union des artistes, UDA, dans un communiqué. C'était « Moins d'émissions grand public, plus de contenu jeunesse », un texte d'Étienne Paré, paru le 22 juin 2026 dans La Presse.
Des traces québécoises d'un océan à l'autre. Un dossier de Jean-Christophe Laurence, paru le 28 juin 2026 dans La Presse. Premier texte de Remarquables oubliés. Il y a quelques années, Mario Périard se trouvait en Arizona à bord de son motorisé. Au moment de traverser une rivière desséchée, quelle ne fut pas sa surprise de voir une affiche discrète à l'entrée du pont où il était écrit « Leroux Wash ». Un nom francophone ici? Jusque dans l'état du Grand Canyon? Cette improbable découverte l'a propulsé dans ses recherches frénétiques et constitue l'un des points d'intérêt du livre « L'Amérique française de l'Alabama au Wyoming », publié il y a peu. Dans cet ouvrage instructif et divertissant, l'auteur raconte comment les francophones, les Canadiens français en tête, ont contribué à la construction des États-Unis et comment cette présence se fait encore sentir aujourd'hui dans les endroits les plus reculés du territoire. À la veille du 250e anniversaire des États-Unis, dit Mario Périard, je trouvais ça important de souligner qu'il y a un peu, beaucoup de nous autres là-dedans, que c'est un peu notre pays aussi. Ce linguiste autodidacte qui a déjà publié deux livres sur la langue française, « La grammaire invisible » et « L'orthographe, un carcan », ne prétend pas réinventer la roue. D'autres ont, avant lui, étudié l'empreinte franco chez l'oncle Sam. Mais son livre synthèse, ironiquement paru chez un éditeur suisse, a le mérite de survoler tous les États américains en donnant une belle place au travail de terrain, puisque ce jeune retraité a parcouru des milliers de kilomètres à travers les States pour nourrir son projet de recherche. Armé de son intuition, de ses notes et d'une poignée de repères géographiques, il a vite réalisé qu'il suffisait de soulever quelques pierres pour trouver les traces d'une francophonie oubliée. Et que même dans les États les plus éloignés du Québec, y compris l'Arizona et le Nouveau-Mexique, il y a toujours une route, une rue, un carrefour, un pont, un lac, une chute, une rivière, une stèle, une plaque, une boutique ou une légende urbaine qui se rapporte au passage d'un ou une francophone, qu'il s'agisse d'Antoine Leroux, Bob Talbot ou Marie Rose. Une influence. Il faut savoir que les Franco sont dans le portrait depuis les débuts de la colonie américaine. Il y a d'abord eu les Français, explorateurs ou exilés huguenots, suivi des trappeurs canadiens-français qui ont poussé leur expédition jusqu'à la frontière mexicaine, puis les aventuriers québécois du 19e siècle, chercheurs d'or, coureurs de jupons, entrepreneurs. Sans oublier les Métis, souvent francophones, et les Haïtiens, qui ont aussi participé à la construction des United States of America. Ces remarquables oubliés, dont certains ont déjà été racontés par l'ethnologue Serge Bouchard, ont tissé la toile de ce qui allait devenir les États-Unis. Ils ont ouvert la route vers l'Ouest, contribué au développement commercial et servi d'intermédiaire avec les Premières Nations, au détriment, hélas, de vieilles alliances franco-autochtones, voire des autochtones tout court. Ils avaient les qualités qu'on prête aujourd'hui aux Américains, affirme l'auteur, suggérant que ces derniers nous doivent ce côté intrépide et de grands espoirs qui les caractérisent dans l'imaginaire mondial. Victime de l'assimilation, cette couche de culture francophone a toutefois été effacée avec le temps. Des noms ont été anglicisés. D'autres ont été snobés par les historiens, par la littérature ou par Hollywood. Les États-Unis avaient vraiment l'obsession de ne pas devenir une tour de Babel, explique Mario Périard. Ils ont donc laminé leur récit national pour projeter l'image d'un melting pot homogène. C'est vraiment la civilisation de la monoculture, ajoute-t-il. Des histoires homériques. Pas besoin de gratter loin sous la surface, cependant, pour retrouver des restes de cette influence. Outre la toponymie, Mario Périard rappelle que certaines régions insoupçonnées des États-Unis parlaient encore français il y a 50 ans, comme le Vincennois dans l'Indiana ou le Muskrat French dans le sud-est du Michigan. Tout comme certains individus très isolés le parlent encore de nos jours au Missouri, au Minnesota ou dans le Mississippi. Au fil des pages, il en rencontre d'ailleurs quelques-uns, parfois de manière accidentelle. Dans d'autres États, le français est quand même plus visible. La Louisiane, bien sûr, mais aussi la Nouvelle-Angleterre, où une nouvelle génération tente de renouer avec ses racines canadiennes-françaises, comme en témoignent les Poutine Fest du Vermont, du Maine ou du New Hampshire. L'ouvrage de Mario Périard propose aussi une belle galerie de personnages historiques plus grands que nature. Ces portraits, parfois homériques, ne sont pas sans rappeler le film The Revenant avec Leonardo DiCaprio, auquel il consacre d'ailleurs quelques pages, non sans réserve, puisqu'on pouvait y voir des francophones. Il est peu probable, en revanche, que ces individus mythiques sortent de l'ombre. Trop francophones pour les États-Unis, trop américains pour le Québec, les John Charles Frémont, Antoine Leroux, Jacques Laramé, François-Xavier Aubry, Charles Beaubien et autres Marie Dorion semblent voués à flotter dans les limbes de l'histoire en quête perpétuelle d'une patrie et d'une reconnaissance. Le Québec ne se rend pas compte de sa dimension continentale, regrette Mario Périard. Ça fait que ces gens-là vont rester dans l'oubli, à moins qu'on change notre perception. Mon livre, j'espère, va contribuer à ça. C'est-à-dire rappeler qu'on n'est pas juste limité au territoire québécois et qu'on a participé à la trame de fond des États-Unis. Deuxième texte. Ils ont laissé leur empreinte. Antoine Leroux, 1801-1861. Cette illustration complète s'intitule « A Mountain Man and a trapper. Un homme des montagnes et un trappeur. Elle a été réalisée par l'artiste américain Frederick Remington en 1890. Elle a été inspirée par le personnage d'Antoine Leroux. Trappeur et aventurier, il explore le territoire jusqu'aux confins de l'Arizona. Parce qu'il connaît le terrain, il propose des itinéraires de chemin de fer aux Américains. On est loin de la trappe au castor, mais c'est quelqu'un qui s'est adapté, lance Mario Périard. La ville de Flagstaff, en Arizona, possède un magasin Leroux, une rue Leroux et des chutes Leroux. Marie Dorion, 1786-1850. Mario Périard s'est particulièrement passionné pour cette métisse, Iowa, qui a traversé des épreuves dignes d'Ulysse dans l'Odyssée. Femme de trappeur et interprète polyglotte, elle survit à une attaque, puis parcourt plus de 5000 kilomètres dans les montagnes avec ses enfants, accouche en chemin, tue un cheval pour les nourrir, devient aveugle et finit par survivre. Un personnage du mythe de l'Oregon. Elle, on pourrait en faire une série, tellement c'est hallucinant. Jacques Laramé, 1784-1820. Ce coureur des bois a facilité les échanges commerciaux entre trappeurs et autochtones. Son nom est assez répandu dans le Wyoming. Rivière Laramie, la ville de Laramie, le fort Laramie, Laramie Peak et le comté de Laramie. Il aurait inspiré le personnage du trappeur Pasquinel dans le roman Centennial de James A. Michener et la série culte qui a suivi en 1978. Une rare récupération du fait franco par la machine à rêve américaine. François-Xavier Aubry, 1824-1854. Commerçant et explorateur, il invente la livraison express du courrier postal par chevaux à relais, bat des records de vitesse pour la livraison du bétail en Californie et participe à la construction du chemin de fer états-unien au Kansas. Il a ouvert la porte commerciale entre Saint-Louis et le Nouveau-Mexique. Il est majeur, explique Mario Périard. Mort à 30 ans dans un règlement de compte. Charles Beaubien, 1800-1864. Originaire de Nicolette, il sert d'intermédiaire entre les Mexicains, les Autochtones et les Anglo-Américains pour le commerce de la fourrure au Nouveau-Mexique. Nommé juge, il devient un personnage influent de la ville de Taos, au Nouveau-Mexique, répondant même au nom de Don Carlos Beaubien. John Charles Frémont, 1813-1890. Surnommé The Pathfinder, ce militaire et homme politique a notamment cartographié l'État du Nevada et une rue porte son nom à Las Vegas. L'histoire le retient aussi comme le tout premier candidat républicain à la présidence des États-Unis et un anti-esclavagiste radical, contemporain d'Abraham Lincoln. C'était des traces québécoises d'un océan à l'autre. Un dossier de Jean-Christophe Laurence, paru le 28 juin 2026 dans La Presse.
On perpétue un modèle du passé. Un texte de Maxime Bilodeau paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Coup d'œil sur les transformations de l'agriculture québécoise avec une spécialiste des dynamiques d'adoption de pratiques agro-environnementales. La transition de l'agriculture intensive vers des pratiques agroécologiques est bien documentée sur le plan technique. Mais les processus menant à cette adoption demeurent peu explorés. Avec son équipe, Julie Ruiz s'intéresse justement au parcours d'obstacles que traversent les agriculteurs et agricultrices du Québec pour rendre leurs pratiques plus respectueuses de l'environnement. Bandes riveraines, conservation des résidus de culture, semis sans labour. Ce faisant, la professeure au département des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR, a développé une fine compréhension des défis que pose une telle transition. Le secteur agricole pèse pour près de 10 % des émissions de gaz à effet de serre du Québec. Au niveau mondial, ce poids relatif frôle plutôt les 25 %. Est-ce à dire que notre agriculture est plus durable qu'ailleurs? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Ici, comme ailleurs, il n'existe pas une agriculture, mais bien des agricultures. Au Québec, une multiplicité de modèles agricoles se côtoie aux quatre coins de la province. Les réalités propres aux basses terres du Saint-Laurent, où l'agriculture s'est concentrée et intensifiée au cours des dernières décennies, diffèrent de celles des Appalaches ou des Laurentides, où l'agriculture tend plutôt à disparaître. Par ailleurs, mettre l'accent sur la seule question climatique éclipse les autres problèmes environnementaux, par exemple le déclin de la biodiversité et la qualité de l'eau. De manière générale, là où elle a cours, l'agriculture basée sur une logique industrielle est à l'origine de conséquences négatives pour l'environnement. Vous vous intéressez à l'adoption de pratiques agricoles durables qui favorisent la biodiversité et la régénération des sols. Cela témoigne d'une prise de conscience du secteur, non? Plusieurs productrices et producteurs agricoles sont passés à l'action depuis longtemps, bien avant que le milieu politique s'en mêle. Plus récemment, le gouvernement du Québec s'est doté d'un plan pour accélérer l'adoption de pratiques agro-environnementales performantes. L'heure n'est donc plus à la prise de conscience d'une urgence, mais bien à la recherche de solutions pour la prendre à bras-le-corps. Les défis concernent aussi bien les producteurs et productrices que le système dans lequel ces personnes évoluent. En gros, cela signifie de changer leurs pratiques, leurs rétributions et même leur identité. Cela semble tout un défi. Qu'est-ce qui motive les producteurs et productrices à tenter de le relever? C'est souvent la prise de conscience d'un problème avec leurs terres, par exemple en matière de qualité des sols. Beaucoup vont alors faire des essais, mais abandonner après une seule année. On sait pourtant que les bénéfices de plusieurs pratiques, comme les cultures de couverture, soit des plantes semées sans être récoltées pour protéger et nourrir le sol, mettent souvent plusieurs années à apparaître. De manière générale, les programmes gouvernementaux, avec leurs incitatifs financiers et leurs services conseils agricoles, sont surtout aidants pour les phases plus tardives de changement. Mais ils le sont peu, voire pas du tout, pour les stades précoces de changement, où les discours sont chargés en émotions. Selon les théories de changement de comportement, les premières phases sont souvent associées à des émotions fortes, comme la peur et la colère. À l'heure actuelle, on soutient le changement seulement quand le producteur ou la productrice a décidé de l'opérer, pas lorsqu'il y a ambivalence de sa part. On comprend que les politiques publiques n'incitent pas les personnes les plus ambivalentes ou réticentes à adopter de nouvelles pratiques. Exact. Le système de soutien à l'agriculture durable aide surtout les producteurs et productrices qui ont déjà décidé de modifier leurs pratiques, mais qui sont au début de cette modification. Peu de programmes ou d'initiatives concernent, d'une part, les personnes qui sont réticentes à modifier leurs pratiques agricoles et, d'autre part, celles qui, à l'opposé, sont très avancées dans le changement et qui ont mis en place des modèles agricoles durables au niveau de leur exploitation depuis longtemps. Résultat, on attend que des agriculteurs et agricultrices qui ne voient pas l'intérêt de changer se décident et on limite le développement des pratiques novatrices de demain. L'agriculture basée sur une logique industrielle a des conséquences négatives pour l'environnement. Que peut-on apprendre de la modernisation des agricultures québécoises, concomitante à la Révolution tranquille, qui a sonné le glas du modèle basé sur la subsistance? Soyons clairs, la hausse du rendement des activités agricoles dans les années 1950, 1960 et 1970 au Québec a transformé la vie de nos agriculteurs et agricultrices. Leurs conditions socio-économiques se sont beaucoup améliorées et il faut s'en réjouir. Il est intéressant de constater que cette modernisation menée à grand train s'est accompagnée de politiques publiques ambitieuses qui rompaient pour de bon avec le passé. À l'heure actuelle, force est de constater que le plan d'agriculture durable du gouvernement du Québec perpétue les bases du modèle agricole conventionnel industriel, qu'on sait délétère pour l'environnement. Selon vous, quelles sont les clés du succès de la transition vers des agricultures durables au Québec? Une des voies pour l'avenir est d'aller progressivement vers un système de soutien financier à l'agriculture durable qui est intégré à l'ensemble du soutien à l'agriculture, plutôt qu'un programme à part. Penser un système d'innovation et d'accompagnement au changement de pratiques plus englobant en est une autre. Et finalement, il est important d'ouvrir la gouvernance du secteur agricole à une diversité d'acteurs. Depuis quelques années, on commence à voir de l'intérêt de la part du monde municipal ou de la santé publique pour l'agriculture. Intégrer ces acteurs dans la gouvernance formelle des institutions agricoles permettrait de créer plus de solidarité pour l'agriculture et ses défis, de mieux prendre en compte sa dimension territoriale et de ne plus la voir uniquement comme une activité économique. Penser une transition ne peut se faire en vase clos. C'était « On perpétue un modèle du passé », un texte de Maxime Bilodeau paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.